Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 23 novembre 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sebulga. Tout d'abord, les titres. Dans le journal de la Coupe du Monde Qatar 2022, la France parfaitement lancée dans le groupe D devant le Danemark et la Tunisie qui ont fait match nul. Tandis que les Argentins sont tombés de haut face au faucon vert de l'Arabie Saoudite. L'Ouganda va déployer 1 millier de soldats dans l'est de la RDC dans le cadre de la force régionale est-africaine. L'Allemagne retirera ses troupes du Mali d'ici à mai 2024. Au Burkina Faso, au moins 14 morts dans 2 attaques dans le nord. Fin de la rencontre en Afrique de l'Ouest avec les partenaires européens pour renforcer la coopération anti-djihadiste. Visite d'État à Londres du président sud-africain qui demande l'aide des pays riches. L'Iran a commencé à enrichir l'uranium à 60% dans l'usine de Fordo. Au moins 15 blessés dans 2 attaques à la bombe à Jérusalem et une autre fusillade ici aux États-Unis. Tout de suite, le journal de la Coupe du Monde d'Eric Manirakidza. Les Tunisiens, deuxième représentant africain à faire leur entrée, est porté par un stade acquis à leur cause en raison notamment de l'importance de leur communauté au Qatar, ont tenu en échec leur adversaire danois. La France, équipe championne en titre, a bien débuté contre l'Australie 4-1 hier mardi au Mondial 2022, à l'inverse de l'Argentine de Lionel Messi, victime d'une désillusion mémorable contre l'Arabie Saoudite 2-1 au Qatar. N'est-ce pas, Eric?
La défaite de l'Argentine ressemble à un coup de semence pour tous les autres favoris du Mondial. Et la France a su éviter un scénario similaire, même si elle s'est retrouvée menée. L'Arabie Saoudite, elle, trône en tête de la poule C devant le Mexique et la Pologne, qui se sont neutralisés 0-0 avec un pénalty manqué par le Polonais Robert Lewandowski. Les Tunisiens ont affiché un visage plus réjouissant que les Danois. Pour un bref aperçu sur cette 3e journée, je suis en ligne avec mon confrère Tarsis Halelimana, qui suit le Mondial depuis Ottawa au Canada. Tarsis, les Aigles de Carthage ont parfaitement contrôlé le maître à jouer danois.
Oui, parce que le Danemark, c'est une grande équipe. Là, je pense que la Tunisie a bien débuté son match. Ça fait 6 participations à la Coupe du Monde. Elle n'a jamais réussi à passer le premier tour depuis 1978. Alors qu'en 1978, les Tunisiens avaient fait un bon match nul contre l'Allemagne. Et ils avaient gagné même contre le Mexique 3-1. Donc, je pense que c'est une équipe prudente. On a vu un bloc défensif qui a gêné franchement les Danois. Est-ce que ça sera la même chose face à la France? L'objectif de Galel étant bien sûr de résister face à la France et de faire un bon match face à l'Australie. Les Tunisiens sont capables de tenir en échec l'équipe de France. Ils sont capables au moins de réussir un match nul.
La grosse surprise de la journée, c'est l'Arabie Saoudite qui fait un exploit, qui bat l'Argentine de Lionel Messi. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe? Elle était donnée favorite avant le début du match.
Je pense que cette équipe, lorsque Messi a marqué son but sur penalty, ils ont cru que c'est vraiment de la balade. Alors que devant, cette équipe, il y avait quand même l'équipe de Hervé Renard qui est un habitué, qui a travaillé avec cette équipe, qui a fait un plan de préparation très efficace en Arabie Saoudite. Et on a un entraîneur très connu qui a fait gagner la Coupe d'Afrique à la Zambie, à la Côte d'Ivoire, qui a même qualifié le Maroc. Mais je pense que ce n'est pas vraiment fini pour l'Argentine.
Il y a un adage qui dit que le nom forge la personnalité. Vous parliez de Hervé Renard. Il a été un vrai renard.
Oui, il a été un vrai renard, mais aussi il a des moyens. Ça veut dire que si vous regardez, bon, à part l'équipe d'Angleterre que j'ai vue, je crois savoir que toutes les équipes vraiment sont fatiguées. Hervé Renard connaît très 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 bien ses équipes. Il a préparé son équipe, il a eu beaucoup de temps et il a eu aussi des moyens. Donc, c'est-à-dire qu'il a une équipe complète place et le schéma qui a été mis en place a été bien appliqué.
Pour couronner le tout, les Saoudiens ont fêté cet exploit avec effusion, au même point que les autorités ont décrété un jour férié ce mercredi. Cette première sensation a valeur de mise en garde pour les autres favoris de ce mondial atypique. Merci à Tarsis, spécialiste du football et journaliste olympique indépendant, pour son analyse. Dans ce journal du mondial, Idrissa, VOA Afrique voyage vers Libreville pour retrouver Jules Valentin Ngoué et son coup de sifflet.
La Coupe du monde de football a également la latitude d'inscrire en grandes lettres les marqueurs de la grande histoire du ballon rond dans le temps. Et en cette première journée de mardi dans le groupe C, l'Arabie Saoudite a créé la sensation en terrassant d'entrée l'Argentine de Lionel Messi, champion d'Amérique du Sud en titre. Le succès inespéré des héros du jour a provoqué une cascade de réactions euphoriques dans la région, dont l'annonce d'un jour férié en Arabie Saoudite. La journée d'aujourd'hui a aussi révélé un fait nouveau à travers la ferveur populaire qui a permis la résistance de l'équipe tunisienne face à une formation danoise déchaînée. On sait désormais que toutes les sélections d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient se produiront pratiquement à domicile avec les avantages que cela comporte. Le Maroc qui entre en lice ce jour contre la Croatie va pleinement bénéficier de cette dynamique dans un groupe particulièrement relevé. La richesse incontestable de son effectif l'autorise à avoir des ambitions, même si les cadors comme les Pays-Bas, l'Angleterre et hier soir la France confirment leur volonté de maintenir le statu quo. Tant mieux pour la réussite de la compétition qui commence à demain.
Et avant les entrées en lice du Maroc, de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Espagne ce mercredi, puis du Brésil et du Portugal jeudi, le monde du ballon rond n'est pas au bout de ses surprises. On a aussi appris hier mardi le départ de Manchester United du Portugais Cristiano Ronaldo, 37 ans, par consentement mutuel, laissant son club l'une des superstars.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Allemagne a décidé de commencer à retirer ses troupes du Mali à compter de l'été 2023, une opération qu'elle compte achever d'ici mai 2024, a-t-on appris hier de plusieurs sources. Rosine Monizero.
Un millier de militaires allemands sont engagés au sein de la mission des Nations Unies au Mali, principalement dans la zone de Gao. Ils y effectuent des missions de reconnaissance et assurent la protection de l'aéroport de cette ville dans le nord du pays. Le chancelier Olaf Scholz, la ministre de la Défense Christine Lambrecht et sa collègue des Affaires étrangères Annalena Baerbock se sont réunis mardi pour arrêter une décision. La ministre Christine Lambrecht préconisait un retrait rapide. Son homologue des affaires étrangères a mis en garde contre une présence accrue de la Russie dans le pays et plaidé pour le maintien d'un contingent. La date butoir de mai 2024 est en compromis puisqu'elle signifie que l'Allemagne pourrait maintenir sa présence au Mali jusqu'à l'éventuelle tenue d'une élection présidentielle fixée à 2 ans à partir de mars 2022. Plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, la France et la Grande-Bretagne, ont déjà annoncé le retrait de leurs soldats du Mali, chaque pays pour des raisons différentes.
Au Burkina Faso, des sources sécuritaires et locales ont annoncé hier qu'au moins 14 personnes, dont 8 supplétifs civils de l'armée, des VDP, ont été tués lundi dans 2 attaques distinctes de groupes djihadistes dans le nord du pays. Fait hier soir, sans annonce majeure du sommet entre 7 États d'Afrique de l'Ouest, membres de l'initiative d'Accra, et plusieurs dirigeants européens en vue d'accroître leur coopération dans la lutte contre la propagation des violences djihadistes du Sahel vers les côtes du Golfe de Guinée. Les présidents du Bénin, du Togo, du Ghana, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, ainsi que des dirigeants du Niger et du Mali, ont ainsi rencontré à Accra des représentants de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne et de la France. L'Ouganda a annoncé hier envoyer 1 millier de soldats d'ici fin novembre dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le cadre d'une force régionale est-africaine déployée dans cette région en proie aux groupes armés. Gininoua.
Nous finalisons la préparation de nos troupes avant de les introduire dans l'est de la RDC, aux côtés de soldats kényans déjà sur le terrain, à Goma, a déclaré Félix Koulagiyé, porte-parole de l'armée ougandaise. Nous envoyons environ 1000 soldats, a-t-il souligné, sans donner la date exacte du départ. Sept pays de la communauté des États d'Afrique de l'Est ont décidé en juin de l'envoi d'une force régionale pour stabiliser l'est de la RDC. Le Kenya assure le commandement de la mission. Les soldats kényans et ougandais doivent se déployer aux côtés des militaires congolais dans le nord Kivu et en Ituri, l'armée sud-soudanaise dans le haut Ouélé et les Burundais dans le sud Kivu. Un contingent rwandais sera déployé le long de la frontière car Kinshasa est opposé à la participation de Kigali à toute opération sur son sol. Kinshasa accuse le Rwanda d'apporter soutien au M23. Kigali accuse Kinshasa de collusion avec les FDLR, des rebelles Hutus rwandais implantés en RD Congo.
Le roi Charles III a accueilli hier le président sud-africain Cyril Ramaphosa à Londres pour la première visite d'État de son règne. Outre le commerce, le changement climatique et la vision de Charles pour le Commonwealth seront abordés pendant cette visite de 2 jours. Dilidico fait le point.
Le roi Charles III a accueilli le président sud-africain Cyril Ramaphosa à Londres pour la première visite d'État de son règne. Outre le commerce, le changement climatique et la vision de Charles pour le Commonwealth seront abordés pendant cette visite de 2 jours. Des salves de canons ont été tirées dans tout Londres lorsque le roi Charles III a accueilli Cyril Ramaphosa lors d'une cérémonie de bienvenue. Ils se sont ensuite rendus au palais de Buckingham dans un cortège de calèches escorté par des soldats de la cavalerie. Monsieur Ramaphosa a prononcé un discours devant les deux chambres du Parlement britannique. Il s'est ensuite rendu à Downing Street pour discuter avec le Premier ministre Rishi Sunak. L'Afrique du Sud est le premier partenaire commercial du Royaume-Uni sur le continent. Mais les problèmes politiques en Afrique du Sud menacent de jeter une ombre sur le faste de la visite. Monsieur Ramaphosa est accusé d'avoir omis de signaler un vol dans sa ferme au cours duquel des voleurs ont emporté 4 millions de dollars en espèces et d'avoir organisé l'enlèvement des voleurs et le versement de pots de vin pour qu'ils gardent le silence. Il a reconnu le cambriolage, mais nie l'enlèvement et la corruption. Les législateurs vont examiner le mois prochain les conclusions d'un groupe spécial chargé d'établir si M. Ramaphosa doit être destitué.
Une autre fusillade ici aux États-Unis. Un homme armé a tué plusieurs personnes dans un supermarché Walmart mardi soir dans une ville de l'État de Virginie, ont déclaré les autorités locales, précisant que le tireur était également mort. La police de la localité de Chesapeake pense qu'il s'agit d'un seul tireur. Le nombre de victimes n'a pas été officiellement annoncé, mais selon la police, la fusillade n'aurait pas fait plus de 10 morts. 2 explosions considérées comme des attaques par les autorités israéliennes ont fait au moins 15 blessés mercredi matin à Jérusalem, selon les secouristes. Une explosion à un arrêt de bus à la sortie de Jérusalem a fait 12 blessés, dont 2 grièvement, et une seconde à une autre station a démoli un autocar et fait 3 blessés selon des secouristes, alors que la police israélienne a qualifié ces 2 explosions d'attaque. L'Iran a commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans son usine de Fordo, une installation souterraine qui a rouvert ses portes il y a 3 ans en raison de la rupture de l'accord nucléaire avec les grandes puissances. Le point avec Michel Joseph.
L'Iran a commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans l'usine de Fordo pour la première fois, a rapporté l'agence de presse iranienne ISNA. Raphaël Grossi, chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a confirmé hier cette décision. L'Iran a toujours nié toute ambition de développer une bombe atomique, insistant sur le fait que ses activités sont uniquement destinées à des fins civiles. Les États-Unis ont exprimé hier leur profonde inquiétude face aux progrès réalisés par l'Iran et sa capacité à fabriquer des missiles balistiques. Dans une déclaration commune, Londres, Paris et Berlin ont condamné l'extension du programme nucléaire iranien. L'usine de Fordo, à environ 180 km au sud de Téhéran, a été construite dans les profondeurs du sous-sol afin de la protéger d'éventuelles attaques aériennes. Israël, l'ennemi juré, n'a jamais exclu une action militaire pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le gouvernement malien vient de mettre fin avec effet immédiat aux activités de toutes les ONG financées par la France. Cette décision fait suite à la suspension par la France de l'aide publique au développement. Comment les populations réagissent-elles à cette décision? Reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Cette décision du gouvernement malien s'explique, selon son communiqué, par l'atteinte à la souveraineté du pays par les autorités françaises. Mais la décision du gouvernement risque, selon Lassine Sanou, citoyen malien, de mettre au chômage de nombreux jeunes qui travaillent dans ces ONG.
Ça ne veut pas rester sans conséquence, parce que compte tenu de la situation entière du pays, ces ONG emploient des milliers de Maliens, quand même, il faut les reconnaître quand même. Donc, en interdisant tous ces ONG quand même de travailler ici, c'est nous. Tu vas renvoyer beaucoup de moyens au chômage quand même. Donc pour moi, ce n'est pas la bonne occasion quand même. Vraiment, il fallait penser vraiment à nos compatriotes qui travaillent dans ces ONG pour nourrir leur famille quand même.
Pour le journaliste Badou Koba, cette décision des autorités est une réponse évidente à la décision des autorités françaises et s'explique par le climat déjà assez tendu entre les deux pays.
C'est les autorités françaises qui ont bel et bien dit que l'Agence française de développement va suspendre sa coopération avec le Mali. Au-delà, toutes les ONG qui sont financées par la France, ces ONG ne bénéficieront plus de financement. Mais la France avait empêché de mettre de l'eau dans son vin en disant que certaines ONG locales vont bénéficier de certains financements dans le cadre de l'humanitaire.
Mais Badou Koba reconnaît cependant que cette décision risque d'avoir des conséquences sur la situation des déplacés qui dépendaient en majorité de l'assistance de ces ONG.
Ça va aggraver la situation des réfugiés. Vous savez que depuis 2012, le Mali est confronté à une rébellion armée, civile et d'actes terroristes. Donc cela a entraîné un déplacement massif de population. C'est une question de souveraineté et qu'au nom de l'humanité, la France ne devrait pas suspendre cette aide.
Le sentiment général, en tout cas celui perceptible sur les réseaux sociaux, est que le Mali et la France puissent très vite accorder leur violon autour de cette question qui risque de faire de nombreux mécontents. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
L'activité touristique dans l'extrême nord du Cameroun est durement frappée par l'insécurité, notamment les exactions du groupe Boko Haram. Les agences de voyage, les guides touristiques, les populations locales et les hôteliers en paient le plus lourd tribut. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
La vie est devenue très dure pour nous, les guides touristiques. Sinon, avant, ça donnait.
Vendi Nicolas exerce aujourd'hui le métier de transporteur dans la ville de Maroua. Il y a 8 ans, il travaillait comme guide touristique pour une agence. Cette dernière a fermé ses portes à la suite des exactions de Boko Haram dans certaines localités de la région de l'extrême nord. Les pics de Rumsiki étaient la destination privilégiée que Nicolas Vendi vendait aux touristes.
Tous les hôtels qui sont à Rumsiki sont devenus bizarres. Il n'y a pas d'entretien puisque personne peut travailler pour ne rien avoir. On a conçu, il y a des gens qui ont investi à Rumsiki pour mettre les touristes à l'aise. Mais aujourd'hui, tous ces hôtels-là, il n'y a personne qui vient. Même les Africains ne viennent pas. Peut-être pour avoir un client qui est de passage, peut-être, je peux dire, une fois ou deux fois par mois. Et ce sont des Africains. Ça ne suffit pas.
À Ouaza, Maga, Pousse, Kapsiki et Rumsiki, fleurons du tourisme de la région de l'extrême nord, les touristes pouvaient y voir des animaux sauvages, des hippopotames, mais aussi des cases obus. L'activité a engrangé des dividendes au secteur de l'hôtellerie. Luc Boumniem, directeur de l'hôtel à Maroua, affirme que l'activité est en berne depuis que les autorités ont déclaré la région zone rouge.
On ressent un coup. Parce que, vous savez, c'est une zone qui regorge beaucoup de sites touristiques. Voilà, qui était d'ailleurs beaucoup sollicité. Et c'est une petite région. Voilà. Donc, vous voyez que les hôtels ne vivent que des touristes, surtout étrangers, parce que c'est aussi le tourisme interne. Donc, pour l'instant, ce n'est que de ça que nous vivons, quoi.
Pour relancer le tourisme dans cette partie de Cameroun, le gouvernement a opté pour la valorisation du tourisme local. Boubacary Vindiedou, chef service départemental de promotion du tourisme et des loisirs dans le département du Diamaré, dans la région de l'extrême nord.
Mais avec la sécurité, le service des billes, l'armée qui fait un grand effort, on arrive quand même à amener déjà nos locaux, à les inciter à des pique-niques, des visites et créer en groupe pour aller visiter et rentrer, même les week-ends. Et beaucoup de gens sont intéressés. Nous organisons aussi les visites au niveau des établissements scolaires. On incite les jeunes à aller découvrir déjà, à consommer local. C'est les chaussures, à aller visiter des locaux. Nous avons le pic de Mindif, déjà dans le Diamaré. Nous avons aussi le Lamida de Bogo. Et justement, c'est là-bas que nous sommes allés pour la journée internationale du tourisme. On a eu un accueil avec les courses de chevaux. Le nouveau Lamida nous a bien reçus. On a organisé des festivités touristiques qui étaient vraiment énormes jusqu'à dans la soirée. Donc, je peux dire en conclusion, nous avons déjà des sites touristiques dans nos marchés. Nos marchés nous offrent déjà des produits locaux que nos populations consomment très bien. Et ça fait déjà vivre ce secteur. On a des sites touristiques comme Waza qui sont visités de temps en temps. Les pics de Mindif, on y va aussi. Et il y en a plein d'autres. La liste est vraiment énorme.
Ce que vous dites que vous ne perdez pas espoir.
En 2013, 7 touristes français, dont 4 enfants, avaient été enlevés par des hommes armés dans la région de l'extrême nord, puis emmenés au Nigeria, où ils ont été libérés après 2 mois de détention. Depuis lors, très peu de touristes étrangers osent s'aventurer dans la région. Emmanuel Jumtap, Yaoundé, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le Bénin est le plus grand exportateur de coton du continent. Il a construit un site industriel pour passer des exportations brutes à la transformation en produits finis. Les militants écologistes affirment que la transformation locale permettra de réduire les émissions dues au transport maritime qui contribue au changement climatique. C'est un reportage de Henry Wilkins dans la ville de Djigbé. Le récit est de Thierry Kaoré.
Au Bénin, un nouveau parc industriel prend forme et se veut un modèle de production locale tout en réduisant les émissions mondiales. Bien que le chantier soit toujours en cours, la zone industrielle de Glo-Djibwe, Dariz, transforme déjà des noix de cajou et fabrique des vêtements pour les marchés occidentaux. La fabrication des produits finis est une première au Bénin, principal exportateur de coton brut d'Afrique, une activité qui fournit des emplois à des habitants comme Marlène Kizikluno.
Je me retrouve heureuse dans ce milieu. Ce n'était pas chose ordinaire où on faisait la couture simple chez nous. Mon objectif, c'est de grandir dans la maison. Et voilà comment je suis là, ça va mieux.
Selon les économistes, les zones industrielles façonneront l'avenir de l'Afrique qui passe de l'exportation de matières premières et de l'importation de produits finis à la production locale. Si le continent veut développer sa propre production, cela signifie plus d'argent pour les économies africaines et des prix plus bas pour les consommateurs. Selon l'entreprise, transformer les matières premières localement est également bénéfique pour la planète. Écoutons son PDG, Letondji Beyeton.
La noix de cajou brute est transformée ici et au lieu d'aller au Vietnam puis retourner sur le marché européen et le marché américain pour être vendue aux consommateurs, rien que cela nous permet de réduire l'empreinte carbone. Ensuite, vous prenez le coton, c'est la même chose.
Selon la Banque mondiale, le transport maritime international est responsable de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui entraînent le changement climatique. Les activistes s'accordent à dire que la réduction des expéditions de matières premières africaines destinées à être transformées à l'étranger permettrait de limiter ces dégâts. Faiz Abasso est membre du programme de transport et environnement, un groupe de campagne pour l'élaboration de la politique verte de l'Union européenne.
Nous avons tendance à produire des matières premières dans un pays, à les transporter dans un autre pour les transformer, et puis à les expédier dans un troisième pays pour vendre le produit fini. Si nous pouvons passer à une économie où les matières premières sont traitées plus près du point d'extraction, nous pouvons réduire considérablement les émissions inutiles.
Bien que l'impact global de la réduction des expéditions ne représente qu'une fraction des émissions mondiales, les partisans de cette initiative affirment qu'elle pourrait jouer un rôle dans la lutte contre le changement climatique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
L'auteur de la fusillade dans une boîte gay de Colorado Springs, dans l'ouest des États-Unis, qui a fait 5 morts dans la nuit de samedi à dimanche, a été arrêté par 2 héros, selon le maire de la ville. Le tireur pourrait être poursuivi pour meurtre et crime motivé par la haine, selon le procureur de district. Les détails dans ce reportage de Cecilia Sanchez. Le récit est de Rosine Munezero.
Après être entré dans ce club et avoir commencé à tirer sur la foule à l'aide d'un fusil d'assaut, Anderson Lee Aldrich, 22 ans, a été maîtrisé par 2 clients. Les autorités ont confirmé lors d'une conférence de presse lundi soir l'identité de ces 2 sauveurs, qualifiés de héros, Richard Fierro et Thomas James. John Sathers est maire de Colorado Springs.
Je ne parlerai pas de la nature de ce qu'il m'a dit sur l'incident. Je n'ai pas rencontré quelqu'un ayant fait preuve d'autant de héroïsme et qui reste si humble à ce sujet. Il m'a simplement dit, j'essayais de protéger ma famille.
Richard Fierro, 45 ans, est un ancien militaire. Il raconte avoir attrapé le tireur par l'arrière alors qu'il se dirigeait vers la terrasse où des clients s'étaient réfugiés. Une fois le tireur au sol, Fierro lui a sauté dessus. Un acte héroïque, affirme John Sathers.
Avant de venir ici aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de parler à Richard Fierro, identifié comme l'un des 2 héros qui ont maîtrisé le suspect dans cette affaire et qui, à mon avis, et je pense la vie de toutes les personnes impliquées, ont sauvé beaucoup de vies.
Le crime motivé par la haine désigne aux États-Unis un acte dirigé contre une personne visée en raison d'éléments de son identité, comme la race, la religion, la nationalité, l'orientation sexuelle ou un handicap. Considéré comme une infraction fédérale aux circonstances aggravantes, il entraîne des condamnations plus dures. Michael Allen est procureur de la 4e circonscription judiciaire du Colorado.
Si nous avons suffisamment de preuves pour soutenir que les crimes ont été motivés par les préjugés, il est essentiel de l'inculper à ce titre. C'est important pour cette communauté, c'est important pour l'effort d'accusation de montrer pourquoi quelque chose s'est produit. Et s'il y a suffisamment de preuves pour soutenir cela, alors dans ce cas, lorsque nous arriverons au dépôt formel des accusations, nous allons absolument inclure ces charges.
Le procureur Allen a indiqué que l'enquête se poursuit et peut durer quelques temps. Anderson Lee Aldrich n'est pas encore officiellement inculpé, mais pourrait être poursuivi pour meurtre et crime de haine. Il risque la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde, Firmin Koyaweda. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.